avec des boutiques aussi. Est-ce que c'est une volonté de rendre le métropole plus populaire, de s'adresser à un autre public?
Non, parce que je pense, soit vous allez sur la rue Neuve et vous voyez le cinéma Métropole, soit vous êtes sur la place de Brouckère, vous voyez l'hôtel. Donc c'est deux choses complémentaires. Je pense que c'est vraiment une idée commerciale d'optimiser ce qu'on a. On est dans le bon endroit de la ville. Donc ouais. Oui, le cinéma est une attente très importante à cette époque-là. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est des milliers de personnes qui vont tous les week-ends à cette époque-là au cinéma. Donc quand on a le plus beau grand hôtel, en tout cas c'est l'ambition, pourquoi pas faire la plus grande salle de cinéma d'Europe à cette époque-là aussi. Voilà, c'est une ambition.
Les travaux sont terminés en 1932. L'inauguration du complexe va se faire en présence de la reine Astrid et de Rému, qui était l'acteur fétiche de Pagnol, hein, à l'époque, César, par exemple. La Seconde Guerre mondiale voit à nouveau l'hôtel réquisitionné durant la période d'occupation par les Allemands, puis ensuite pendant un an par les Alliés. Et heureusement, ça c'est ce qu'on peut lire sur le site de l'hôtel Métropole, heureusement, malgré cette période de récession, l'hôtel peut se réjouir d'une certaine période de prospérité. Elle est due à quoi, cette prospérité, en ces temps troublés, la Deuxième Guerre mondiale? L'hôtel est toujours fréquenté par une clientèle, même comme lorsqu'il est réquisitionné par les Allemands?
À ma connaissance, non. Effectivement, si les troupes allemandes, et bon, quand je vous dis les troupes allemandes, ce sont des équipes dirigeantes, évidemment, c'est pas le petit soldat du coin. Non, il y a des secrets à conserver, je ne pense pas qu'on rentre comme ça. La chance du Métropole, c'est de redémarrer très vite après, quand l'hôtel est rendu au propriétaire après 46. Ça, oui, on entame une période faste, celle des années 50, qui culmine évidemment avec l'Expo 58, et ce sont d'excellentes années pour le Métropole.
Alors, parmi les vedettes, les célébrités qui ont fréquenté l'hôtel Métropole, on cite toujours Sacha Guitry. Il y a aussi tout le style Mans qui fait ses débuts à l'hôtel Métropole, c'est ça?
Oui, le fameux café Métropole qui avait ouvert avant l'hôtel avait un orchestre de près de 25 personnes. Donc, c'est vraiment les cafés comme on les entend avant. Et donc, ce café, notamment, comme c'était la grande vogue du jazz, jouait du jazz, et voilà, un petit nouveau a fait ses premières armes dans ce café Métropole, c'est évidemment tout Stillemans.
Alors il y a les scientifiques, on le disait, les artistes aussi fréquentent, bon Sacha Guitry, mais les autres artistes fréquentent le Métropole, c'est un lieu de rassemblement.
Tout à fait, mais d'autant plus que, comme je dis, on est dans le lieu de sortie, on est près des cinémas, donc les acteurs qui viennent promotionner leur film venaient évidemment au Métropole plus facilement, et encore maintenant d'ailleurs.
Alors quels sont les grands noms que l'on peut retenir de cette clientèle d'artistes au Métropole?
Ça dépend des périodes, mais vous avez Caruso par exemple qui a laissé un petit mot. On retient Sacha Guitry parce qu'effectivement ses dédicaces sont assez amusantes.
Ouais. Il y a un livre d'or bien sûr à chaque fois.
Oui, il y a plusieurs livres d'or, tout à fait. Et donc le premier date de la fin du 19e siècle. Et à ce moment-là, c'est très rare, c'est la fille d'un des frères Wilmans qui a eu cette idée-là, qui était fan de musique et voilà, qui en a profité pour faire signer les artistes qui passaient.
Parce que les livres d'or, bien sûr, on les conserve.
Eh bien, pas tous. De nouveau, je vous dis, les archives, c'est assez récent, cette prise de conscience que les archives peuvent avoir une valeur aussi commerciale. D'ailleurs, certains livres d'or ont disparu.
Virginie Jourdain est avec nous pour retracer l'histoire du Métropole.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Les jours de la semaine. Et tous les week-ends, sur toutes les scènes, j'existe. Je fais des claquettes, je fais des pirouettes et des galipettes en piste. Un jour j'ai choisi leur rire à tout prix et j'ai toujours pris mes risques. Je fais de mon mieux mes sauts périlleux. Je suis dans vos yeux l'artiste.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, l'expo, ça c'était Annie Cordy, bien sûr, qui a d'ailleurs fréquenté, j'ai vu son nom dans
oui,
le livre d'or.
Dès qu'elle vient à Bruxelles, elle descend en Métropole.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une suite maintenant,
tout à
Annie
fait.
Cordy.
Comme elle vient régulièrement, une suite a été aménagée pour elle. Il y a même un placard fermé à clé qui n'est qu'à elle et qu'elle ouvre quand elle est ici à Bruxelles.
Dans lequel elle garde ses petites affaires, peut-être.
Oui, mais il paraît qu'elle était venue d'ailleurs au Saint-Nicolas des enfants des employés de l'hôtel. Elle aime beaucoup, beaucoup le Métropole.
Alors, l'exposition internationale de Bruxelles en 58 est bien sûr un événement historique pour la Belgique. L'hôtel Métropole joue un rôle dans cette exposition.
Oui, c'est là que, d'une certaine manière, on va lancer les festivités, puisque dès 57, en fait, les organisateurs de l'expo, parce qu'ils veulent conscientiser toute la population belge, va lancer ce qu'ils ont appelé un train de l'accueil. Donc, c'est une espèce de caravane publicitaire qui va sillonner le pays pour montrer les maquettes de ce qui va se faire, de ce qu'on va faire, et surtout pour sensibiliser les Belges à bien accueillir tous les étrangers qui vont venir, puisque la Belgique sera sous l'œil du monde entier pendant 6 mois que les Belges s'y préparent. Et donc, ça va démarrer par une cérémonie à l'hôtel Métropole, et ça va d'ailleurs se clôturer aussi à l'hôtel Métropole.
Est-ce que la clientèle s'élargit ? On parle touriste, on parle de tourisme de masse aussi. Est-ce que le Métropole va s'adresser à une clientèle plus large ?
Mais c'est une caractéristique des grands hôtels, c'est surtout au 19e siècle, mais toutes les chambres ne sont pas des chambres de luxe. Mmh. En fait, vous avez quand même une gamme de prix assez large. Je ne m'avancerai pas autant aujourd'hui, ça je sais moins, mais vous avez une gamme assez large. Déjà au 19e siècle, des gens fortunés ont des domestiques avec eux quand ils voyagent, donc il faut des chambres adaptées à eux et qui n'ont évidemment pas les mêmes équipements. Et une autre des caractéristiques aussi, c'est plus monter dans les étages, en tout cas à l'époque. Vous avez des chambres moins chères parce que pas d'ascenseur, etc. Et donc, voilà, plus vous montez dans les étages, les chambres sont plus petites, moins bien équipées et... Le panel de clientèle n'est pas si limité qu'on ne le croit.
Parce que si on prend un portrait, un personnage type fortuné de l'époque, début 20e, fin 19e, début 20e, c'est en effet quelqu'un qui arrive avec toute une batterie de personnel, avec des dizaines de malles, comme on peut s'imaginer.
Oui, en tout cas... En tout cas, accompagné. Ce genre de personne ne voyage pas seul. Il y a bien une femme de chambre qui l'accompagne, qui l'aide avec les malles, etc. Et qui, comme dans les maisons particulières, en fait, le domestique va loger dans les combles et, et quand le maître en a besoin, il descendra plus bas dans les appartements d'apparat.
Alors, durant les années 50-60, l'hôtel accueille encore des hôtes prestigieux. Hein, on peut citer le général de Gaulle, les présidents américains Eisenhower, Hoover, le chancelier Adenauer. Puis, les travaux de construction du métro vont débuter. Et là, ça va impacter aussi le métropole. Fin des années 60, c'est
oui, à partir de la fin des années 60. Et c'est pour tout le quartier, tous les boulevards centraux. Je vous ai dit que c'était le lieu de sortie jusqu'à l'entre-deux-guerres. Ces travaux des années 60 vont marquer un coup terrible pour le quartier parce que c'est un chantier interminable avec les poussières, les bruits qu'on imagine. Et c'est aussi l'époque du règne de la télévision, de la périurbanisation. C'est-à-dire que les gens vont commencer avec leur voiture à aller dans des malls aux limites de la ville où il y a des grands parkings, c'est beaucoup plus facile de circuler. Et tous ces éléments vont
s'ajouter les uns aux autres.
Ouais. Qui vont faire que le centre-ville va être quand même un petit peu moins prisé qu'avant. Et donc beaucoup de tels concurrents aux métropoles vont fermer leurs portes. Certains cinémas, les théâtres, les grands magasins qu'on connaît vont aussi fermer leurs portes. Donc c'est vraiment très très difficile. Et le métropole est un des rares à continuer à fonctionner à cette époque-là. Il paraît que pendant la construction de la gare de métro de Brouckère, il y avait un immense trou sur la place de Brouckère. Il fallait accéder à l'hôtel par une petite passerelle. Donc vraiment, d'un point de vue commercial, c'est vraiment pas facile à vendre, on va dire. Mais il ne va pas fermer ses portes et va passer ces années difficiles en courbant le dos, on va dire, en attendant des jours meilleurs.
Et en effet, on voit une perspective de la place de Brouckère qui est transformée depuis ses origines. La fontaine, par exemple, centrale a disparu.
Voilà, par exemple, la fontaine qui était dédiée au bourgmestre en spack, elle va être déplacée du côté du quartier Sainte-Catherine. Ce qui était encore un lieu de promenade, de circulation, va devenir deux grandes routes pour le tout à la voiture, qui évidemment n'est pas très conviviale non plus pour circuler dans ces établissements du quartier.
Dans les années 2000, on va procéder à d'autres travaux de rénovation encore. Et puis 2002, c'est une année importante. Pourquoi, Virginie Jourdain ?
Ah, très important. Enfin, d'une part, le métropole ne fait que se transformer. Et comme tous les grands hôtels, si vous voulez rester à la page, vous devez en permanence être en travaux. C'est une caractéristique de tous ces hôtels. Mais 2002 est une année très importante puisque la région bruxelloise va reconnaître la qualité architecturale du rez-de-chaussée du métropole et va le classer. Donc depuis lors, plus question de transformer quoi que ce soit dans le bas de l'hôtel sans l'aval des monuments et sites.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de palace encore ? Est-ce que c'est encore un palace ? Parce que si on regarde à Paris l'hôtel Plaza, le Plaza Athénée, le Meurice, on se dit que ce n'est pas tout à fait la même catégorie. Est-ce qu'aujourd'hui, le métropole est encore un palace ?
c'est un palace bruxellois, donc effectivement, vous n'avez peut-être pas la même clientèle. La grande transformation, c'est justement le passage d'une clientèle de touristes fortunés à plutôt une clientèle d'hommes d'affaires, qui ont aussi des très grandes exigences. Donc on peut continuer à dire que le métropole est un palace réellement. Ils ont des attentes très pointues et ça demande notamment des adaptations dans les salles de conférences, de réunions, etc., avec tout le matériel high-tech nécessaire. Mais oui, c'est peut-être pas Paris avec toutes ces images de clientèle des Émirats qui veulent telle ou telle spécificité un peu farfelue, mais ça reste vraiment très pointu avec un service qui doit tenir la route.
Avec la cette famille toujours Wilmans Kuppens qui multiplie aussi les activités qui ouvrent des centres d'art, le Wills notamment, elle reste l'âme toujours du métropole cette famille.
Du métropole, oui. La famille a revendu les activités brassicoles.
Oui.
Et donc le Wills avec, dans les années, si je ne me trompe pas, 60-70, je ne sais plus. Enfin, la dernière bière brassée au Wills date de 88. Et depuis, en fait, le bâtiment a été racheté par la région. Et c'est la région qui a ouvert ce centre d'art contemporain dans un bâtiment assez exceptionnel.
Le Métropole, l'Hôtel Métropole, Virginie Jourdain. Est-ce que le bouquin est toujours disponible chez Luc Pire?
À ma connaissance, il est épuisé, mais s'il y a un grand intérêt, savoir.
Il est sorti il y a 2-3 ans, je pense, un peu plus.
Ou un peu plus.
Voilà, l'Hôtel Métropole.